notre enseignement dans le livre de l'Exode. Hein. Pour cet été, on reprendra l'Exode dans 2 semaines. Et donc ce matin, on va voir une thématique, un temps de rafraîchissement et de renouvellement. Je sais pas, mais ça a dû vous arriver d'avoir des fois très chaud. Vous avez déjà eu très chaud? Hein? Mois de juillet, hein, il fait un peu chaud. Hein? Ouais. Et pour diverses raisons, on peut avoir chaud. Hein. Là, on a subi la météo. Même si ce matin c'est bien, ça va avec le thème, hein, on se sent un peu plus rafraîchi. On peut avoir chaud à cause de la fièvre, avoir chaud quand vous commencez à faire du sport. Hein. Quand on travaille dans un environnement, des fois, qui produit beaucoup de chaleur, et la chaleur a cette faculté à épuiser. La chaleur, ça épuise, hein, ça fatigue notre organisme. Et dans toutes ces situations, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais on a envie d'être rafraîchi. On cherche la fraîcheur. C'est important parce que ça fait du bien. Mais le rafraîchissement, si on observe bien, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur à nous-mêmes. Hein, par exemple, un verre d'eau avec des glaçons, un petit vent frais, la rosée. Pour ceux qui ont pu pendant cet été avoir un petit climatiseur, ça faisait du bien. Ou des fois, après du sport, une douche froide, ça peut aussi faire du bien à l'organisme. Notre vie chrétienne, l'apôtre Paul dit que c'est une course. C'est une course. Et quand on court, il y a des moments où on a chaud, on transpire. Ça peut devenir difficile pour diverses raisons. Et on a besoin de se rafraîchir. On a besoin de prendre des fois même un nouveau souffle dans une course. Et si on fait pas ça, si on ne prend pas le temps d'être renouvelé, rafraîchi, il va se passer des choses que notre corps va commencer à manifester, des vertiges, manque de force, voire même peut-être s'évanouir, n'est-ce pas? Alors moi, j'ai une scène en tête, je pense qu'il est le seul qui va pouvoir sourire à ce moment-là. Je faisais une partie de tennis avec des copains, et la partie de tennis, elle a devenu compliquée à la fin pour moi. J'ai dû courir à un robinet, mais je crois que j'allais m'évanouir. Hein. J'ai bu des litres, mais ça n'a pas servi grand-chose. Mais la question est comment nous nous rafraîchissons? Qu'est-ce qui rafraîchit mon âme ce matin? Qu'est-ce qui rafraîchit mon âme? Et j'aimerais commencer avant de développer et de voir plusieurs versets avec vous ce matin. Et ça sera comme un petit panier, hein. Vous allez prendre certains versets, je sais que vous n'allez peut-être pas tous les retenir, mais qu'il y ait au moins un verset ce matin que vous gardez dans votre cœur, qui fera du bien à vos âmes pour être rafraîchis et être renouvelés. Mais j'aimerais commencer avec cette affirmation que je crois que Dieu est mon créateur. Ça, c'est important. Je crois qu'il est celui qui sait rafraîchir et renouveler nos forces, notre âme, dans cette course. Je commence avec cette affirmation parce qu'elle est importante. Je crois que Dieu, en tant que Père, Fils et Saint-Esprit, agit dans ma vie, agit dans nos vies. Et j'affirme aussi qu'il est le seul capable de nous rafraîchir, de nous renouveler plus que n'importe qui sur cette terre. Et ça, il faut avoir cette vérité dans notre cœur. Alors ce matin, on va avoir des psalmistes, des rois, des prophètes, des apôtres, même un médecin, et bien sûr notre Seigneur Jésus-Christ, qui ont parlé de cette idée de rafraîchissement, de renouvellement, dans des époques et des contextes différents. Mais c'est un thème qu'on peut retrouver dans l'Écriture. Alors on va commencer avec un roi, le roi David. Vous connaissez peut-être un peu David. C'est un homme qui a vécu des difficultés dans sa vie, hein, dans son enfance. Dans les choix que Dieu a fait même de sa vie, qu'il n'était pas prêt, des confrontations très jeunes, hein, à des difficultés dans son rôle de roi, dans sa famille, dans sa propre famille, ça n'a pas été facile. Donc David est quelqu'un qui a connu des difficultés dans la sphère familiale, dans la sphère sociale, dans sa sphère professionnelle, même si on peut dire, c'est quelqu'un qui a été éprouvé. Et c'est un homme qui a aussi connu littéralement le désert. Et donc on va aller vers cet homme qui a écrit des psaumes et qui a connu le manque de fraîcheur dans les déserts arides d'Israël. Alors je vous invite à reprendre ce psaume que j'ai lu tout à l'heure en introduction, le psaume 63. Hop, je pense que je... Ouais, je... Ah ok, tu... Ok, super, merci. Il a écrit dans le psaume 63, Ô Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée, sans eau. dans ce passage, on voit que David qui exprime quelque chose, il a besoin d'être rafraîchi, je pense, physiquement et spirituellement lorsqu'il s'adresse à Dieu. Si on reprend tout le psaume, si Mika, tu peux me remettre tout le psaume qu'on a lu tout à l'heure, on va relire ce psaume en entier. David dans le désert de Juda, « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée sans eau. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents, et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit, car tu es mon secours, et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi, ta droiture me soutient. » David nous enseigne une vérité très connue, mais parfois peu appliquée, dans ce psaume, c'est chercher la face de Dieu. Chercher la face de Dieu. David cherche la face de Dieu. Pourquoi ? Pourquoi il cherche la face de Dieu ? Parce qu'il est convaincu au plus profond de son âme, même asséché, que Dieu est son seul et unique secours. C'est ce qu'il exprime ici. Le seul capable de pouvoir rafraîchir et nourrir son âme. Et face à la sécheresse, David ne baisse pas les bras. C'est ça qui est intéressant. Face à un contexte de sécheresse physique ou même spirituelle, David ne baisse pas les bras. Il continue à vouloir être dans quoi ? Dans la présence de Dieu. Par quoi ? Le texte nous dit, par la méditation. Lorsque je pense à toi, sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit, car tu es mon secours. Avec le peu de choses que David savait sur Dieu, nous avons une révélation bien plus grande sur qui est Dieu, contrairement à David. David va prendre ce qu'il a, qu'il sait déjà sur Dieu, pour méditer sur lui dans une situation difficile. Et le rafraîchissement de son âme commence par chercher son rafraîchissement en Dieu et non en autre chose. Et non en autre chose. Est-ce que Dieu utilisera des moyens matériels et humains pour rafraîchir David ? Sûrement. Mais le rafraîchissement de notre âme et premièrement dans cette recherche d'être dans la présence de Dieu. Est-ce que c'est quelque chose que nous cultivons, de vouloir être dans la présence de Dieu ? Ou peut-être on se pose la question, mais Florent, où trouver Dieu ? Des fois, ça peut être une question qu'on peut se poser. Où trouver Dieu ? David trouve Dieu ici, tout d'abord dans la prière. Quand il écrit ce psaume, vous le sentez tout comme moi, il prie à Dieu. Et aussi dans la méditation. Vous connaissez ça. Mais cherchez la face de Dieu. C'est quelque chose qui est important dans nos vies. Et d'autant plus quand on est dans des périodes où il fait très chaud. Où nos vies, ça brûle. Et on a peut-être ce réflexe d'aller chercher de la fraîcheur ailleurs qu'en Dieu. On a peut-être même envie de fuir la présence de Dieu, alors qu'il faut faire tout l'inverse. Comme David. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi dans une terre, la réalité c'est ça, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Mais je te cherche. Un autre psalmiste a écrit ceci au psaume 42, on peut revenir sur le PowerPoint. Comme une biche soupire après des courants d'eau, vous connaissez hein, ce verset, ce cantique. Aussi mon âme soupire après toi, ô Dieu, mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant, quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu. Le psalmiste ici utilise ce qu'il voit pour traduire son besoin de rafraîchissement. Alors qu'est-ce qu'il voit dans le désert ? Malgré que ce soit un désert rocailleux et pas évident en Israël, pour ceux qui ont déjà vu des photos, il voit une biche. Pendant qu'il était là, ce psalmiste a dû voir des biches passer et elle devait chercher des points d'eau, des courants d'eau qui devaient être assez rares. Et il la voit aller vers ce courant d'eau, peut-être en courant vers ce courant d'eau, et puis prendre le temps là de boire. Mais elle a dû chercher ce courant d'eau. Et quand elle l'a trouvé, elle s'est posée là. Et il voit cette biche se tourner. Et le psalmiste est en train d'utiliser cette image pour parler de son âme. Tout comme cette biche, voilà, qui cherche, qui cherche le courant d'eau et qui a soif. Ce psalmiste cherche la face de Dieu. Mais chercher la face de Dieu demande du temps et demande de s'arrêter. Vous savez, la biche, je ne pense pas qu'elle va boire en courant. Il y a le courant d'eau, elle ne va pas faire comme ça et courir. Bon, j'imite mal la biche, je veux bien, ce n'est pas grave. Mais vous voyez, le fait de s'arrêter, de prendre le temps, est-ce que c'est ce que nous faisons dans nos vies qui vont à 300 à l'heure? Chercher la face de Dieu, s'arrêter, chercher la face de Dieu, prendre le temps de boire, de se rafraîchir. Notre âme en a besoin. Et vous savez, ça nous permettra de reprendre du souffle. Des fois, on est épuisé, on est fatigué pour diverses raisons. Mais on boit une petite goutte d'eau en courant, mais on ne s'arrête pas pour chercher la face de Dieu. Si Dieu demande souvent à son peuple de s'arrêter, de le chercher, c'est tout simplement, mes frères et sœurs, c'est parce que Dieu le veut. Ce n'est pas parce que le pasteur le dit, c'est parce que Dieu le veut. Dieu veut que son peuple s'arrête et cherche sa face. Et il sait que ça sera quelque chose qui est difficile pour son peuple, parce qu'il y aura toujours plein de raisons entre l'ennemi, sa propre chair, notre propre chair, qui ne veulent pas s'arrêter et chercher la face de Dieu. Et pourtant, notre corps a soif. Si je vous demande, est-ce que vous avez soif de Dieu? Est-ce que vous avez envie de passer encore plus de temps dans la présence de Dieu? Mais tous les chrétiens vont me dire oui, j'en suis convaincu de ça. Il y a un autre homme qui s'appelle Moïse. Quand il parle du renouvellement de l'Alliance en Deutéronome 32, il va écrire un cantique, c'est intéressant aussi. Et il va prendre le ciel et la terre comme témoins de ce renouveau, de ce rafraîchissement. Et dans les premiers versets, il utilise un vocabulaire qui parle de la fraîcheur, on va le lire dans quelques instants. Et vous allez voir que tout ce vocabulaire de la fraîcheur, de ce renouveau, de ce rafraîchissement est lié, et on va le retrouver encore dans d'autres passages d'Écriture, aux instructions de Dieu et à la connaissance de Dieu. Regardez ce passage dans Deutéronome. Cieux, prêtez l'oreille et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Que mes instructions se répandent, très intéressant le vocabulaire, comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe, car je proclamerai le nom de l'Éternel. Rendez gloire à notre Dieu, il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes, c'est un Dieu fidèle et sans iniquité, il est juste et droit. Dieu rafraîchit son peuple, il le renouvelle par ses instructions que nous trouvons dans sa parole. Et en même temps, tout ce rafraîchissement se trouve dans le caractère de Dieu, de qui il est quand vous lisez la fin de ce passage. Un autre homme, qui a été roi aussi, qui s'appelle Salomon, enseignera ses fils sur cette même vérité. Regardez ça. Proverbe 3, Salomon qui parle à ses fils. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies. » Et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel. Détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Quand Salomon parle de la santé des muscles et rafraîchissement des os, il faut bien comprendre qu'il utilise un vocabulaire pour parler de l'être entier de la personne. Mes amis, vous allez connaître la dégénérescence de votre corps et même la maladie. Ok, faut faire attention à l'interprétation aussi de ce passage. Salomon est en train de parler de l'être entier. Mais qu'est-ce qui rafraîchit l'être d'une personne dans ce passage? Si on regarde bien, on synthétise un peu, c'est notre dépendance à Dieu en fin de compte. C'est notre dépendance à Dieu dans notre quotidien. Se confier en lui, le texte dit, le voir en action chaque jour, le craindre, s'éloigner du péché, malgré que notre corps va se dégénérer, et même peut-être on va tomber malade, comme on l'a entendu dans le témoignage de Naomi, mais cela ne veut pas dire que Dieu ne va pas rafraîchir notre être intérieur. Et en parallèle, le péché, l'action du péché, détruit aussi. Hein? Le péché détruit. Mais l'encouragement que donne ici ce père à son fils, et ce que nous, en tant que père, nous pouvons transmettre aussi à nos enfants, confie-toi en Dieu. Ne t'appuie pas sur toi-même. Reconnais Dieu dans tout ce qu'il fait. Sois point sage à tes propres yeux, mais crains l'Éternel. Détourne-toi du mal et tu vas connaître le renouvellement, le rafraîchissement de tout ton être. Cette semaine, je lisais un article qui disait qu'en moyenne, une personne passe environ 3 à 4 heures par jour sur des réseaux sociaux ou des jeux sur son téléphone. Donc, j'ai fait un peu de maths. Cela fait plus de 24 heures par semaine. Cela veut dire que les gens sont prêts à consacrer une journée par semaine sans dormir dans leur téléphone. Ma question, c'est qu'est-ce que leur âme cherche dans ces 3-4 heures par jour? L'article ne parlait même pas des fléaux, des séries qui rendent addicts les gens. Et je ne sais pas si ces stats sont pareils chez les chrétiens, mais nous devons rester très vigilants à tout cela. Je ne suis pas convaincu que c'est là qu'on décompresse ou même que c'est là qu'on va chercher son rafraîchissement, parce que des fois, on rentre dans cette pensée que c'est un moyen de décompresser, de se rafraîchir. Oh, ça va un peu mieux. Je quitte le monde du travail. Je quitte la pression familiale. On veut fuir quelque chose dans autre chose qui va absolument pas vous rafraîchir. En tout cas, j'en suis pas convaincu. Peut-être même les stats sont, c'est une moyenne. Donc ça veut dire qu'il y en a, c'est peut-être plus que ça. Vous vous rendez compte quand même, une journée par semaine consacrée à ces choses-là? Est-ce que nous consacrons une journée par semaine à notre Dieu? Est-ce que, la question c'est, est-ce que nous allons chercher la face de Dieu autant que nous allons chercher des fois dans d'autres choses? Et Dieu nous demande ça en fin de compte. Et cela amène le rafraîchissement, le renouvellement de notre être. On quitte les rois, on va vers les prophètes. Le prophète Ésaïe, même si on peut considérer Moïse comme un prophète. Le prophète Ésaïe, lui, encourage le peuple à faire quoi? À lever les yeux vers celui qui nous a créés. Vers celui qui ne se fatigue pas, qui ne s'est jamais épuisé. Bien sûr, nous ne connaîtrons jamais ça ici-bas, à cause de notre nature pécheresse. Hein, notre être entier se fatigue et s'épuise, même si on est régénéré. Mais Dieu peut faire quelque chose, malgré encore cet état pécheur que nous avons ici-bas. Dieu a cette capacité de vouloir nous rafraîchir et renouveler nos forces. C'est ce que dit le prophète. Regardez avec moi Ésaïe 40. À qui me comparez-vous pour que je lui ressemble? C'est Dieu qui parle à son peuple, qui avait un problème avec l'idolâtrie, à se fabriquer des statuettes ou autre chose. Levez vos yeux en haut et regardez. C'est très important ça. C'est ça, c'est l'idée de chercher la face de Dieu. Levez vos yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? Qui fait marcher en ordre leur armée? Il parle des étoiles. Comment ça tient tout ça? Vous avez déjà réfléchi? Il les appelle toutes par leur nom. Par son grand pouvoir et par sa force puissante, il n'y en a pas une qui fasse défaut. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel? Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu? Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? Nous sommes un peu ces enfants comme Israël, des fois où on pose plein de questions. Et il dit par la suite, hop. Il répond, c'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. C'est l'idée de renouvellement, de rafraîchissement. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent, ils ne se lassent point, ils marchent et ne se fatigueront point. C'est très intéressant dans ces versets d'Ésaïe de voir ce contraste entre la force humaine limitée et la force divine illimitée. Et en fin de compte, comme Dieu ne se fatigue pas, il est capable de nous communiquer ça et de renouveler nos forces. C'est pour ça qu'on peut compter sur lui. Moi, je suis un être qui est fatigué, qui va être de plus en plus fatigué en vieillissant. Je ne peux pas transmettre cette énergie, cette force à quelqu'un d'autre. Mais Dieu a cette capacité de par sa nature. Il a la capacité à renouveler notre âme épuisée, mes frères et sœurs. Je crois aussi que dans ce passage, il y a une perspective de l'éternité. En tout cas, le renouvellement et le rafraîchissement passent dans notre texte par notre confiance en Dieu. Et c'est pourquoi, je l'ai dit tout à l'heure, que le prophète nous encourage à faire quoi? À lever nos yeux vers Dieu. Avez-vous levé les yeux vers Dieu cette semaine? Vous êtes-vous arrêté pour chercher la face de Dieu et prendre le temps de lever les yeux vers Dieu et votre Créateur, votre Seigneur, votre Sauveur? Votre chair ne voudra pas que vous leviez les yeux vers Dieu. Votre chair va vouloir que vos yeux restent en bas ou fixés sur des choses qui n'est pas Dieu. C'est un combat de chaque jour. C'est un combat de chaque jour. Le rythme de ce monde ne veut pas que vous arrêtiez. Sachez-le, le rythme de ce monde ne veut pas que vous arrêtiez pour lever les yeux en haut. Le rafraîchissement ou ce renouvellement spirituel, c'est s'arrêter dans la présence de Dieu, considérer qui est Dieu, lui faire confiance. En fin de compte, que Dieu soit l'objet de mes pensées. Que Dieu soit l'objet de mes pensées. Si vous êtes comme moi, dès que Dieu n'est plus l'objet de mes pensées, je chute. Je m'épuise. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Je connais ça. Et il est plus facile que Dieu ne soit plus l'objet de mes pensées qu'il le soit. C'est vrai ou pas? Mais par contre, je suis convaincu que ce Dieu-là ne veut pas me laisser dans cet état-là. Il veut me donner la capacité et il m'encourage à travers quoi? Sa parole. Il répète les mêmes choses. En fin de compte, vous voyez, on est en train de traverser plusieurs passages, plusieurs histoires, plusieurs périodes de l'histoire où on retrouve les mêmes choses. L'apôtre Paul, quelques siècles plus tard, va enseigner à plusieurs reprises cette pensée du renouvellement spirituel. Vous savez, Paul, c'était un homme qui était en action, en mouvement, tout le temps. Mais c'est un homme qui a été aussi souvent arrêté par les emprisonnements. Lui, il s'est trouvé souvent arrêté, mais aussi rafraîchi par le Seigneur. Je dirais même que son histoire commence, qui a marqué sa vie, qui a marqué sa théologie, c'est pour ça qu'il va l'enseigner à plusieurs reprises, je pense, dans les Épîtres, à Damas, il fonce, mais Dieu va l'arrêter. Il va devoir chercher la face de Dieu. Il ne va même plus voir. Jusqu'à retrouver un renouveau, une nouvelle vue. Ça commence avec ça, l'histoire de Paul. Et il va enseigner à plusieurs reprises le renouvellement de l'intelligence, le renouvellement de la pensée, le renouvellement de l'être, le rafraîchissement spirituel, si vous voulez. Paul, c'est quelque chose qui est dans sa théologie. Et Paul a appris à laisser Dieu le renouveler. Et il a encouragé plusieurs chrétiens à faire cela. À l'église d'Éphèse, il les encourage à être renouvelés par l'Esprit. Aux chrétiens de Rome, il les encourage à être transformés par le renouvellement de leur intelligence afin de faire quoi? La volonté de Dieu. Regardez, c'est ce passage dans Romains 12. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ça, c'est compliqué, hein? Parce que ce siècle a tellement de poids, de pression sur nous qu'il veut qu'on lui ressemble. Et nous, même en tant que chrétiens, si on ne lui ressemble pas, on a presque peur. Mais il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Dans quel but? Afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. Tout le monde veut connaître la volonté de Dieu, n'est-ce pas, quand on est chrétien? Il dit, laissez-vous renouveler, vous rafraîchir, afin de discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le renouvellement de notre intelligence est le processus par lequel vos pensées et votre volonté deviennent de plus en plus semblables à celles de Jésus-Christ. Mais pour cela, il faut passer du temps avec lui. Pour cela, il faut chercher sa face. Un prédicateur assez connu, on aime ou on n'aime pas, s'appelle Woody Bocam. On dit souvent qu'il envoie quelques punchlines. Il a quelques phrases qui réveillent les consciences, on va dire. Mais il y a quelques années, j'avais écouté une prédication de lui. Et bon, je paraphrase un peu, mais je pense avoir compris quand même son idée. Ce n'est pas mon grand fort l'anglais, mais il disait aux parents chrétiens, « Vous êtes surpris que vos enfants agissent et pensent comme des petits soldats romains, mais vous laissez leur éducation à César. Vous ne les éduquez plus dans la foi biblique. Peut-être aussi, il dit, parce que vous, les parents, vous êtes laissés endormir et séduire par la philosophie de César plus que Christ. Vous allez peut-être plus chercher la face de César que la face de Christ. » C'est important ça, que nous en tant que parents chrétiens, nous allons chercher la face de Dieu. Et des fois, pareil, on n'y va pas. Et on a besoin de ça, on a besoin de chercher la sagesse de Dieu pour éduquer nos enfants, c'est compliqué. Paul répète encore cet enseignement aux Colossiens au chapitre 3. Il leur dit, vous êtes devenus des chrétiens, vous avez été régénérés par l'Esprit grâce à l'œuvre parfaite de Christ. C'est merveilleux, il n'y a rien de plus beau que d'être régénéré par Christ. Mais il leur dit aussi, votre chair veut et va vous éloigner de Dieu. Il leur dit ça. Elle va vous épuiser par votre colère, par votre mensonge, par vos calomnies, par votre cupidité, par votre immoralité. Les effets du péché vont vous épuiser. C'est pourquoi il dit aux chrétiens de Colosse, ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Merci. Vous voyez encore un lien entre ce renouvellement, ce rafraîchissement spirituel et la connaissance de Dieu. Et c'est ce que nous avons lu tout à l'heure dans l'Ancien Testament, ce lien entre le rafraîchissement, le renouvellement et la connaissance de qui est Dieu. Les psalmistes parlaient d'avoir soif de Dieu. Ésaïe disait « Lève les yeux vers Dieu ». Paul continue d'enseigner aux chrétiens de différentes églises « Faites la même chose ». Il va même aller plus loin au chapitre 1 de Colossiens, il prie pour ça. Regardez, il prie pour ça. Est-ce que nous prions pour ça les uns pour les autres, pour notre propre vie? Il dit « C'est pour cela aussi, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier pour vous ». Et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse, intelligence spirituelle. Dans quel but? Pour marcher d'une manière digne du Seigneur. Et on a vu que tout à l'heure, il y avait ce renouvellement de l'intelligence. Et elle passe par la connaissance de Dieu, par chercher la face de Dieu. Notre rafraîchissement spirituel passe par prendre l'habitude de penser selon la Bible. C'est très simple comme phrase. Notre rafraîchissement spirituel passe par prendre l'habitude de penser selon la parole de Dieu. C'est un combat. C'est un combat. Mais la parole de Dieu nous rafraîchit, nous renouvelle. Vous savez, il y a un jeune pasteur à l'église d'Éphèse qui commençait à être découragé, à être fatigué peut-être même par la pression de l'église, qui n'était peut-être pas évidente à Éphèse. Découragé, refroidissement. Et puis Paul va prendre sa plume, inspiré par l'Esprit, et il va commencer à lui écrire pour l'encourager. Il a connu Éphèse, hein, Paul, il a passé plus de 3 ans là-bas, il connaissait bien cette église. Et il va écrire à son petit protégé Timothée. Quand vous lisez 1 et 2 Timothée, surtout 2 Timothée, il faut savoir qu'il est pasteur là-bas. Et ce n'est pas facile pour lui. Mais Paul va faire quelque chose de très intéressant. Paul va encourager Timothée à rediriger ses regards vers Jésus-Christ. Il faut savoir qu'à cette époque, le Nouveau Testament n'est pas rédigé entièrement comme nous avons le privilège aujourd'hui. Donc, il va l'encourager à se souvenir du Christ ressuscité. Il lui dit cette phrase qui a dû faire du bien à Timothée. Il lui dit à un moment donné dans sa deuxième lettre à Timothée, « Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. » Mes amis, quand nous voyons plus très clair, quand nous sommes fatigués, épuisés pour diverses raisons, Dieu donne un moyen pour nous rafraîchir et nous renouveler. Il utilise d'autres croyants qui nous parlent et redirigent nos regards vers le Christ ressuscité. Et ça, c'est très, très important. C'est que Dieu, on ne va pas dans une église locale ou dans une vie même familiale chrétienne, on ne va pas tous être au même épuisement, même fatigue, même pression. Alors Dieu, dans sa grâce, va utiliser des frères et des sœurs pour réorienter notre regard pour nous dire « Florent, va chercher la face de Dieu. Florent, relève les yeux. Florent, Christ est ressuscité, il est vivant. Souviens-toi ce qu'il a fait. » Et ça, c'est la beauté aussi de l'œuvre de Dieu de manière pratique pour nous renouveler, pour nous aider à repartir de l'avant. Dans cette même lettre que Paul a écrite à Timothée, il lui dit ceci, très intéressant, « Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé. Il n'a pas eu honte de mes chaînes. » Et ce mot consoler, il est très intéressant parce qu'il peut avoir des sens très larges. Retrouver la respiration, prendre l'air, revivre, se rafraîchir, être consolé, réconforté. Et en fin de compte, Dieu a utilisé la maison d'Onésiphore et sa famille pour rafraîchir Paul dans des moments où il devait être en difficulté, soit par ses emprisonnements ou autre. Et Paul aussi, ce grand apôtre Paul, a eu des moments difficiles. Et Dieu a utilisé la famille d'Onésiphore. On ne sait pas comment, mais en tout cas, pour rafraîchir, pour renouveler l'être de Paul. Et puis, il y a un autre personnage que Paul aime beaucoup, il s'appelle Philémon. Et Philémon, lui aussi, va avoir... c'est très, très intéressant de regarder le caractère de Philémon. C'est que lui, il va être une personne où on a envie d'être à côté de lui parce qu'il dégage un rafraîchissement. Et Paul va le dire, tu m'as rafraîchi et tu rafraîchis les autres aussi autour de toi. Et Dieu utilise ça aussi. Que nous soyons aussi des personnes qui savons transmettre, en tout cas, ce rafraîchissement. Un prédicateur du XVIIe siècle, John Owen, a dit ceci, « Le confort des amis est l'une des grandes sources de rafraîchissement que Dieu nous donne en faisant notre pèlerinage de ce monde à ce qui est à venir. » Je répète, John Owen, le confort des amis est l'une des grandes sources de rafraîchissement que Dieu nous donne en faisant notre pèlerinage de ce monde à ce qui est à venir. Timothée a reçu ça, a reçu ces instructions de Paul. Mais bien sûr, Timothée devait mettre en pratique aussi les conseils de Paul pour être renouvelé. La mise en pratique de la parole est importante, surtout dans les domaines où vous reconnaissez le besoin d'un changement biblique, un besoin d'un renouveau. Ça nous arrive des fois dans nos vies où on est bloqué sur certaines choses, où on ne voit pas encore certaines choses sur nous, et on a l'impression qu'on s'épuise, et puis d'un seul coup, on voit dans l'Écriture Dieu réveille notre conscience, ou à travers une prédication, à travers un frère, ou des choses qu'on a entendues. Et en fin de compte, c'est ça qu'on a besoin pour être rafraîchi. Et des fois, ça passe par « si mon peuple s'humilie, s'il cherche ma face ». Quand on fait tout cela, vous offrez à la parole de Dieu la possibilité de demeurer en vous dans toute sa richesse et de vous rafraîchir. Ce que j'aime avec Dieu, et pour quand on est ses enfants, c'est qu'il me rend capable. Je crois qu'on a un Dieu qui nous rend capable par sa grâce et sa puissance. J'aimerais finir avec Luc, un médecin, et puis avec notre Seigneur Jésus-Christ concernant ce rafraîchissement. En Actes, après le chapitre 2, chapitre 3, Pierre va accuser les Juifs, vous savez, de ce qu'ils ont fait au Messie, à Christ. Et puis on arrive à Actes 3, 17, 21, et il parle de ceci. Pierre, il dit « Maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance », donc il parle à ces Juifs, « ainsi que vos chefs. Mais Dieu a accompli de la sorte qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes que son Christ devait souffrir. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. » Je suis conscient que ce passage demanderait une prédication à lui tout seul, ce texte. Mais ici, ce que je veux mettre en avant, c'est un passage d'espérance. C'est un passage qui annonce un plein et total rafraîchissement de nos âmes. On est en train de parler de quelque chose qui est futur ici. Pierre parle d'un royaume qui sera un royaume de rafraîchissement, un rafraîchissement éternel. Un royaume où nous ne connaîtrons plus la souffrance, la fatigue, les effets épuisants du péché. Il n'y aura plus de culpabilité, plus de frustration, plus de corruption. Ça sera parfait. Nous serons dans la présence du Christ et le Christ, il va faire quelque chose, il va essuyer nos larmes. Hein, c'est ce que dit le passage de l'Apocalypse. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. Donc, le temps de rafraîchissement que Pierre est en train de parler, c'est quelque chose de futur et c'est là qu'on se retrouve dans l'Apocalypse 1. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Il dit « Écris, car ses paroles sont certaines et véritables. » Il me dit « C'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Et celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. » Quand Pierre parle de ce temps de rafraîchissement qu'il annonce, il est en train de parler de la venue d'un jour du Messie. Jésus revient chercher son Église pour l'emmener dans cet endroit de plein et total rafraîchissement, de renouvellement. Tout comme Ésaïe parlait tout à l'heure, on ne se fatiguera plus jamais. Nous connaîtrons plus ces choses-là. Toutes ces choses-là, mes amis, ça nous épuise, ça nous fatigue. Mais un jour, il n'y aura plus ça. Pierre disait dans sa prédication tout à l'heure, Dieu a annoncé que le Christ devait venir et souffrir. La chose s'est réalisée. Il leur dit, repentez-vous, convertissez-vous, ce sont les fruits de la nouvelle naissance. Pour ceux qui auront fait ça, il leur dit ensuite une perspective future, des temps de rafraîchissement arrivent, un renouvellement arrive. Mais c'est très structuré de la part de Pierre. Dieu a dit des choses, ça s'est accompli, le Christ est venu, il a payé le prix fort pour vous accorder la repentance et la conversion. Et tout comme Dieu a dit, et ça s'est réalisé, ce que Dieu dit, pour des temps de rafraîchissement futurs, ça va arriver. J'aimerais vous encourager avec ça. Dieu va nous accorder des temps de rafraîchissement ici-bas, mais ça restera, je, j'en suis très conscient, toujours éphémère. Mais un jour, nous allons goûter au plein rafraîchissement, au plein renouvellement, tout comme nous venons de le lire avec Jean dans l'Apocalypse. John Piper a dit ceci, « Quand vous regardez le monde aujourd'hui, les choses ne sont pas comme elles devraient l'être. Et nous voulons souvent demander, qu'est-ce que Dieu fait ? Où est Dieu dans un monde où tant d'agonie, tant de tragédies, tant de futilité, tant de frustration, tant d'immoralité, tant de corruption ? Où est Dieu ? » La réponse est qu'il règne et qu'il arrive. Et quand il viendra, tout sera restauré. Il rétablira la pleine justice divine. Mes amis, tout le monde dans cette salle a un besoin différent en ce moment, j'en suis conscient, et je ne le connais même pas. Ou même peut-être de nombreux besoins. Mais nous avons tous besoin d'être rafraîchis, renouvelés chaque jour par Christ, en attendant le parfait rafraîchissement. Nous avons besoin d'aller chercher sa face. Nous avons besoin de nous attendre à lui. Alors je vous encourage à vous arrêter, à chercher sa face, à lever vos yeux, à suivre ses instructions, à être des vies de rafraîchissement pour les autres. Parce que je suis convaincu que Christ veut répondre aux besoins de nos âmes fatiguées, brûlantes. Je finis avec ces deux passages que vous connaissez bien. Ils sont ces deux passages dans un contexte de nouvelle naissance. Et je crois que c'est des passages qu'on peut aussi se rappeler quotidiennement en tant que chrétien. Il dit au peuple qui était fatigué à cause du poids que les pharisiens mettaient sur eux. C'est ça le contexte de ce passage. Ils mettaient des fardeaux à cause de la loi, des lois et des lois pour être sauvés. Et ils étaient fatigués en fin de compte de tout cela. Et Christ vient avec cette phrase dans ce contexte. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés par tout ça, et je vous donnerai du repos. » Il parle du salut. « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. » Vous savez, le joug, c'est ce qu'on met au bœuf. Et normalement, tous les deux, ils doivent pousser. En même temps, si les deux ne vont pas dans la même direction, c'est compliqué. Mais là, en fin de compte, c'est Christ qui porte. Vous n'avez même pas les pieds qui touchent le sol. Et c'est lui qui avance. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Voyez encore la notion d'instruction qu'il a. Car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos, du rafraîchissement, du renouvellement pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Puis le dernier que vous connaissez aussi, dans un contexte où c'est placé d'une manière merveilleuse de la part du Seigneur Jésus-Christ et même de Jean, c'est en lien avec ce qu'on a déjà vu dans l'Exode. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout et s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Approchez-vous du Seigneur. Je vous encourage à ça. Ça paraît tellement simple comme exhortation. Mais je suis tellement convaincu que c'est un combat de chaque jour d'aller chercher la face de Dieu. Mais Dieu veut nous renouveler, veut faire du bien à nos âmes, veut nous rafraîchir. Amen.